Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Radio Starbucks.
Lo que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
On travaille, on essaye de vivre.
On essaye de vivre et on travaille, on fait ce qu'on peut sous les sanctions, plongé dans un Iran sous sanctions. C'est l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, 6 mois après le retrait des Américains de l'accord nucléaire. Sous les radars et Amélie Perrier avec notamment une prisonnière au Nicaragua dont l'arme la plus efficace est son rouge à lèvres. 18h50, bonsoir Bruxelles, l'Europe avant le vote. Et tout ce qui vous agace ou vous étonne dans ce mélange à 28 et bientôt 27, on parle de visa doré. Johanna Hochstein vous expliquera ce que ça veut dire. 18h55. Le monde à l'envers avec un pays qui va mieux après un plongeon vertigineux mais qui a choisi le remède inverse de tout ce qu'on entend à rebours de Bruxelles. C'est le Portugal dont nous parlera Jean-Marc. Mais d'abord, comment juger les crimes de guerre en Syrie? Il faut de la patience, mais certains y travaillent, on y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Est-ce qu'on pourra un jour juger les crimes de guerre en Syrie, mettre en prison les violeurs, ceux qui lancent des bombes interdites, ceux qui décapitent, ceux qui réduisent à l'esclavage? C'est un très long travail, c'est celui de notre invité ce soir qui vient le partager d'ailleurs avec le pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui existe ici à Paris, parce que partager les informations et les méthodes, c'est indispensable. Bonsoir à vous, Catherine Marchiuel.
Bonsoir.
Vous dirigez ce qu'on appelle le mécanisme, pour faire court, créé par l'ONU en juillet 2017. Cet mécanisme international, impartial, indépendant, les trois I sont importants, chargé d'enquêter sur les crimes de guerre les plus graves commis en Syrie. Et en gros, c'est vous qui êtes chargé de recueillir les preuves, de les mettre en ordre, de monter des dossiers, dans l'idée d'un jugement qui aura lieu plus tard. Est-ce que c'est un peu résumé, mais enfin c'est à ça que ça sert, votre mécanisme?
C'est exactement ça, en partie, mais... En dehors de la préparation de dossiers pour l'avenir, nous préparons aussi des éléments de preuve. Enfin, nous préparons. Nous recueillons des éléments de preuve et nous préparons du matériel d'analyse de ces éléments que nous mettons à disposition de bureaux de procureurs qui actuellement enquêtent sur ces crimes et qui actuellement ont des dossiers ouverts.
Donc vous êtes pourvoyeur de preuves en quelque sorte pour les tribunaux et pour un pôle comme celui qui existe avec lequel vous allez travailler cet après-midi, par exemple.
Tout à fait.
Au bout d'un peu plus d'un an, lorsque vous êtes arrivé, vous aviez déjà recueilli, c'est les chiffres qui sortaient, vous aviez recueilli 900 000 éléments de preuve. Ça paraît immense. J'imagine qu'il y en a encore plus aujourd'hui. On parle de quoi exactement, en fait? Qu'est-ce qu'on vous apporte?
Alors, on recueille des éléments de preuve vraiment très divers, classiques dans la préparation de dossiers pénaux en matière de crimes internationaux. Ça peut être des témoignages, ça peut être des preuves documentaires, des vidéos, des enregistrements faits sur un téléphone. Ça peut être des images satellites, enfin tous les éléments auxquels on peut penser. Ça peut être, quand je parle de témoignages, des personnes qui ont été victimes de crimes, qui les ont observés, mais ça peut être aussi des personnes qui étaient à l'intérieur des organisations et des systèmes qui permettaient la commission de ces crimes.
Vous n'avez pas le droit de rentrer en Syrie, donc vous devez compter sur les autres pour vous les amener, en fait. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose d'évident pour eux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, il existe une vraie confiance entre les gens sur le terrain, les ONG, etc., qui viennent spontanément vous voir en disant « voilà ce que j'ai ». Est-ce qu'ils savent où vous trouver aussi ?« Voilà ce que j'ai, voilà ce que vous pourrez utiliser à terme ». Est-ce que cette confiance, elle est vraiment établie, elle existe?
Je pense que la confiance, elle se gagne, donc elle est en train de s'établir, mais c'est vraiment à nous, les personnes du mécanisme, qu'il importe de gagner cette confiance en expliquant notre travail, en expliquant les moyens que nous mettons en œuvre, à quoi peut servir, par exemple, des ONG ou des individus qui ont des éléments de preuve, à quoi pouvons-nous leur servir, comment pouvons-nous faire le lien avec les juridictions et quel est le sérieux que nous mettons au traitement de ce matériel qu'ils souvent ils ont recueilli au péril de leur vie. Il est clair, la première chose que je dis toujours, c'est que nous n'aurons pas la capacité de préparer des dossiers sur tous les crimes. La masse de crimes allégués en Syrie est absolument phénoménale. Moi, je travaille dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans et
vous n'avez jamais vu
je
ça,
n'ai jamais
en
vu
fait.
Quelque chose de cette ampleur-là. Alors,
mais c'est-à-dire, pardon, pour ce qui est des informations que vous avez, qu'on vous donne, ou aussi sur l'ampleur des crimes, au fond, les deux?
Moi, je dirais sur l'ampleur des crimes, mais établir... Il y a une différence entre faire un rapport sur la base d'éléments sans utiliser un standard pénal et prouver en matière pénale l'existence de crimes et des responsabilités pénales. Donc, je rentre pas dans le ratio parce que c'est un petit peu... Enfin, je pense que c'est un petit peu aléatoire aussi, mais en revanche, ce qui est clair, c'est que la possibilité d'acquérir du matériel, de preuves venant de sources très différentes, de corroborer, d'authentifier, d'accepter qu'il va peut-être y avoir parmi ces preuves des choses qui ne sont pas réelles, ça c'est la force du mécanisme. On a acquis à la fois des personnes, on a mis dans ce mécanisme des personnes qui ont à la fois l'expérience de ce type de travail, mais on a aussi acquis des systèmes de management de la preuve qui sont sophistiqués. C'est pas miraculeux, hein, il faut faire un vrai travail avec, mais qui permettent quand même d'identifier des problèmes d'authenticité et de faire ce travail de corroboration, de fourmi qui est indispensable pour prouver les crimes.
Vous l'avez dit, hein, c'est peut-être la guerre la plus documentée qu'on ait connue, alors oui. C'est inhérent aussi à l'époque, évidemment, mais est-ce que c'est pas un piège, au fond, l'énormité des documents, ça rend les choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus lentes, j'imagine.
Exactement.
Tout le monde a un smartphone, hein, y compris pendant la guerre.
Voilà, et vous avez énormément de matériel qui est duplicatif, parfois entièrement, parfois en partie. Donc, si vous décidez que vous écartez de votre analyse une partie conséquence des éléments qui sont devant vous, cette approche même peut vous être reprochée ensuite au niveau pénal. On va vous dire, mais vous avez choisi en fait les éléments qui vous convenaient.
Les éléments à charge.
Vous avez laissé les éléments à décharge. Donc, ce travail-là est indispensable. C'est un défi. Mais je pense qu'on est plus équipé aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 20 ans. Quand
on travaille mieux qu'en Yougoslavie, par exemple, pour prendre des exemples que vous connaissez bien, puisque vous y étiez.
On est mieux équipé. On travaille mieux. On travaillait bien, je pense, mais on travaillait avec souvent... On a appris des leçons aussi. On a accumulé des preuves à une époque.
Qu'est-ce qu'on a appris, par exemple? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ne pas faire d'erreurs? Quelles sont les erreurs qu'on a faites et qu'on ne sait
pas? Alors,
plus
on espère pouvoir en éviter certaines en se servant des leçons apprises. Et les leçons apprises, c'est qu'il faut mettre en place des systèmes qui permettent le traitement de la preuve dès l'arrivée. Il ne faut pas collecter de la preuve sans avoir une idée d'où on va. Donc il faut effectivement une méthode rigoureuse. Il faut, dans le cas de la Syrie, avoir des personnes qui peuvent travailler dans la langue dans laquelle ces matériaux sont la plupart du temps disponibles, c'est-à-dire l'arabe. On ne peut pas traduire tout. Donc c'est des méthodes de travail différentes. Je ne dis pas qu'on évitera toutes les erreurs, ça serait vraiment très prétentieux de ma part, mais je pense qu'on peut en éviter certaines. Et on sait aussi, par exemple, pour vous donner un exemple précis au niveau de la constitution de dossier, on sait aussi que si on ne cherche pas précisément, par exemple, à identifier ce qui est arrivé aux femmes et à se focaliser trop exclusivement sur la situation des hommes, on ne verra pas arriver des éléments qui permettent de refléter exactement les souffrances subies par chacun. Le genre, dans les crimes de guerre, c'est quelque chose qu'on a appris.
Parce que ça requiert
une véritable approche. Il faut vraiment une approche volontariste si vous voulez que ça surface.
Catherine Marchiruel, alors ce qui est intéressant, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous travaillez évidemment dans les crimes commis en Syrie par le régime syrien, mais pas seulement. J'imagine que vous regardez aussi ce qui se passe du côté des rebelles. Vous regardez évidemment, vous avez regardé ce qui se passait du côté de Daesh. Donc est-ce qu'on compartimente, en fait. Comment ça se passe dans ces cas-là, en se disant encore une fois que dans l'avenir, peut-être qu'il faudra créer une structure spéciale pour juger tout ce qui tourne autour de Daesh, peut-être qu'il faudra créer une structure spéciale pour autre chose. Est-ce que déjà vous compartimentez dans ce sens pour l'avenir, même si on ne sait pas très bien à quelle est l'échelle de cet avenir?
Ce que nous savons, c'est que nous ne pouvons pas nous focaliser sur une seule des parties au conflit. Ce serait totalement en contradiction avec les principes que décrivent ces 3 I que nous indiquions tout à l'heure, 2 d'entre eux en tout cas, impartialité, indépendance. Donc, compartimentaliser dans le sens où il est peu vraisemblable qu'un dossier pénal unique puisse porter toutes ces dimensions-là, oui. Et en tout cas, dans la sélection de dossiers, avoir bien en tête cette nécessité de refléter la totalité, non pas des crimes, mais la totalité des formes de crimes dans la mesure du possible.
Tout ça, Catherine Marchiruel, en sachant que vous, d'abord deux choses, vous ne savez pas si ça aboutira dans un tribunal, tout ça. Il n'y a pas de cour pénale internationale pour l'instant. Il y a une, c'est le Conseil de sécurité qui peut ordonner ce genre de choses, et pour l'instant il y a un veto, notamment russe, qui interdit ce genre de choses. Donc, est-ce que des fois vous vous dites, peut-être que je recueille pour rien?
Absolument pas. Non, jamais, parce que d'une part, certes, la voie de la Cour pénale internationale n'est pas ouverte en ce moment, puisque la Syrie n'a pas ratifié le traité de Rome, et nous n'avons pas d'accord au sein du Conseil de sécurité pour créer un tribunal ad hoc ou renvoyer l'affaire devant la CPI. Mais d'abord, cette situation-là ne restera pas, je l'espère, tout le temps la même. Il y aura des possibles avancées. Et puis, en outre, et peut-être de façon encore plus importante, actuellement, il y a des juridictions nationales qui font des enquêtes. Et notre rôle à nous, au mécanisme, c'est d'assister ces enquêtes. Donc, jamais je ne me dis « ça ne servira à rien ». Alors, j'espère que ça servira suffisamment et que les instances possibles, les ouvertures de justice seront les plus larges possibles.
Il y a des instances nationales, effectivement, il y a même des instances régionales qui travaillent. Est-ce que tout ça risque pas d'être un peu cafouillis, en l'absence de ces pays, au fond, donc de quelque chose qui centralise réellement, est-ce qu'on finira vraiment par y voir clair ?
Alors, on peut penser que la collaboration, quand on est de l'extérieur, est désorganisée. Je pense qu'elle est beaucoup moins désorganisée qu'on ne l'imagine, parce que ces juridictions, elles se parlent entre elles. Les procureurs, et c'est un peu l'occasion de cette journée, se parlent entre eux. Il y a également un organe au sein de l'Union européenne qui s'appelle le terme vient en anglais, le Genocide Network, qui est en fait un
réseau génocide.
Réseau génocide, c'est-à-dire un réseau de procureurs et de policiers qui ont une spécialisation sur les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, et qui se réunissent pour parler de leurs enquêtes en cours, qui se réunissent pour, en quelque sorte, avoir une forme de coopération. Donc, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que notre travail à nous étant d'assister les différents acteurs possibles, nous pouvons veiller, nous, au moins dans le cadre de notre travail, à la complémentarité plutôt que la duplication des efforts.
Combien vous êtes-vous ? Comment on appelle ça d'ailleurs le mécanisme, le M3I si
Oui, le M3I.
Oui, c'est un peu bizarre, mais combien vous êtes-vous ? Parce que vous deviez monter en puissance au niveau des effectifs.
Alors, nous sommes 25 actuellement. Nous avons l'ambition d'être une quarantaine et nous serons vraiment pas loin de ça à la fin de l'année, et en totalité, nous devrions être 60.
Si on compare, encore une fois, c'est des comparaisons que vous connaissez, puisque vous avez travaillé sur la Yougoslavie, est-ce que vous avez l'impression d'avoir ce qu'il faut, en fait ? Alors, j'imagine qu'il faut toujours plus, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir réellement travailler, ou est-ce que 60 personnes pour recueillir, combien on disait, 1 million de preuves, ça paraît tellement dérisoire, ou peut-être plus ?
Une soixantaine, c'est raisonnable pour, je pense, faire quelque chose de cohérent, avec 4 grands axes. La collection, donc, et le traitement de la preuve. Une enquête structurelle que nous avons démarrée, qui nous permet d'avoir une vision large et complète de la situation syrienne, qui identifie les schémas de crimes, qui identifie les liens entre les crimes et les individus, qui se soucie des éléments matériels de ces crimes et de ces formes de responsabilité qu'il faut établir. Donc ça, de manière générale, pour reprendre votre expression tout à l'heure, sans trop de compartimentalisation, et puis ensuite faire des lignes d'enquête structurelles stratégiques qui nous permettent d'aller de cette enquête structurelle à des dossiers. Et la dernière chose, le quatrième élément, c'est vraiment le partage d'éléments de preuve, d'éléments d'analyse et de dossiers entiers avec des juridictions.
Catherine Marchiouel, la guerre en Syrie, en termes de combat, en tout cas, elle est en train de se terminer aujourd'hui. Alors, on sait que c'est dans ces cas-là, on n'est qu'au début de quelque chose. Mais précisément, est-ce que ça facilite votre travail ? Ou est-ce qu'au contraire, vous savez ça aussi bien que moi, on va rentrer dans une phase diplomatique ? Et les phases diplomatiques et les phases de justice, parfois, ne sont pas compatibles l'une avec l'autre.
Ce qui me paraît indispensable, c'est de garder à l'esprit que pour les personnes pour les Syriens qui vivent en Syrie actuellement, la paix peut arriver. Pour que la paix dure, moi je ne crois pas qu'une paix peut être durable sans qu'il y ait de justice. Et pour les millions de réfugiés qui sont dans d'autres pays, y compris en Europe, je ne crois pas que la perspective de retour est envisageable s'il n'y a pas de signe tangible de justice. Alors oui, la diplomatie, le droit ne sont pas toujours complètement alignés. L'Assemblée générale, quand elle a créé ce mécanisme, elle a affirmé fortement que la justice devait faire partie des négociations.
Vous allez l'entendre, parce que je suis sûr que vous l'avez déjà entendu en Yougoslavie, au Cambodge et ailleurs, la justice ruine parfois, empêche les négociations de paix. Il va y avoir des élections, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, il va y avoir des négociations entre grandes puissances. À un moment, est-ce que vous êtes préparé dans ces cas-là ? Comme vous le dites, pour les victimes, c'est absolument terrible à entendre. Vous êtes juriste, est-ce qu'on est préparé dans ces cas-là à entendre ? Vous allez mettre tout ça entre parenthèses pour l'instant, parce que remettre ce pays en marche est plus important finalement que de juger, y compris ceux qui les dirigent.
Non, on va pas lâcher du tout l'effort. Et je pense qu'il y a un nombre très important d'États qui sont bien déterminés à ce que la justice ne soit pas mise entre parenthèses. Au contraire, le travail de longue haleine que nous avons entrepris depuis un an, ce travail-là, il va continuer. Moi, le passé, l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, le Cambodge... avec combien de temps après les faits, alors, je travaillais dans ces tribunaux. Ça me donne la certitude qu'il y aura une justice pour les Syriens. J'espère qu'elle ne sera pas trop lointaine.
Et on espère, quand on compare, vous le disiez, avec le Cambodge, avec la Yougoslavie peut-être un peu moins, avec le Rwanda, peut-être que ce qu'il faut expliquer aussi aux victimes, c'est que soyez patients, ça ne peut pas venir tout de suite, ça ne peut pas venir sur les ruines. Est-ce que la justice peut venir vraiment sur des ruines ou il faut attendre qu'on reconstruise au moins un peu pour que ça passe vraiment, en fait?
Je pense qu'il faudra du temps, ça c'est certain. S'il faut saisir chaque opportunité de justice, il faut n'en laisser passer aucune et il ne faut pas baisser les bras.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine Marchiuel, merci encore. Tiens, on va rappeler le nom de ce mécanisme parce qu'encore une fois, les trois I, ils sont extrêmement importants. Mécanisme international, indépendant et impartial pour juger les crimes de guerre en Syrie. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde grâce à Géraldine Allot qui va nous raconter l'Iran sous les sanctions, comment on vit, comment les entreprises survivent. Et c'est un avant-goût de l'émission Interception que vous entendrez en longueur dimanche sur France Inter. Sous les radars et Amélie Perrier en Éthiopie qui change au Nicaragua où un rouge à lèvres est devenu un mode de protestation. 18h50, bonsoir Bruxelles. L'Europe avant le vote, l'Europe pour mieux comprendre telle qu'elle vous agace ou vous séduit. On parlera de visa doré. Vous comprendrez ce que c'est dans un instant. 18h55, Le Monde à l'envers et Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
On reste en Europe avec vous, on reste avec le Portugal qui est à l'envers de tout ce que Bruxelles préconise.
Alors il était au fond du trou, il est en train de devenir maintenant le bon élève de la zone euro, le tout en faisant exactement l'inverse de ce que préconise Bruxelles.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par Brooklyn, New York avec les Navigants. C'est la playlist de France Inter, ça s'appelle Housekeeping. Sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakio Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, c'est le retour d'Amélie Perrier. Amélie, un vent nouveau souffle sur l'Éthiopie.
Un vent porté par un tout nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. Il a 42 ans et depuis sa nomination au printemps, il a engagé des réformes cruciales. Il a libéré par exemple des milliers de prisonniers politiques et des journalistes. Il a fait la paix avec l'Érythrée. Il a annoncé la privatisation de grandes compagnies publiques. Et hier, il a nommé son gouvernement. Alors il dit là, avoir plus de 20 ministres au gouvernement nous coûte trop cher, nous devons former le meilleur cabinet en fonction de nos moyens. Quand notre budget national augmentera, nous reconsidérerons la question, mais pour l'instant 20, c'est suffisant. Et le plus remarquable, c'est que pour la première fois, la parité est strictement respectée. Le ministère de la Défense et celui de la Paix, portefeuille clé, sont confiés à des femmes. L'Éthiopie devient le second État africain à établir la parité au gouvernement après le Rwanda. C'est même un exploit histoire remarquable à l'échelle du monde. Toutefois, l'Éthiopie n'a pas encore fini avec ses vieux démons. Des affrontements intercommunautaires ont éclaté ces dernières semaines et provoqué le déplacement d'un million de personnes.
Alors, des femmes qui entrent au gouvernement en Éthiopie, mais qui restent à la porte des temples en Inde.
Et là, je vous emmène au temple hindou d'Ayappa, à Sabarimala. Un temple où, sur les images des cérémonies, on voit des hommes, uniquement des hommes. Les femmes n'étaient pas autorisées jusque-là. Mais la Cour suprême, dont on rappelle qu'elle a dépénalisé l'homosexualité récemment, ou encore l'adultère, la Cour a aussi révoqué l'interdiction faite aux femmes en âge d'avoir leurs règles, soit de 10 à 50 ans, de pénétrer dans le temple. L'ouverture aux femmes devait avoir lieu pour la première fois hier, sauf que les hommes s'y sont opposés. Aujourd'hui, ils bloquent encore les accès. Écoutez celui-là.
Mahatma Gandhi taught us that too.
Alors là, il dit, le Mahatma Gandhi nous a dit cela, on ne doit pas abuser de quelqu'un, on ne doit pas toucher, bousculer, même ces jeunes féministes radicales. Mais en même temps, 10 000 personnes avaient envahi la route sur des kilomètres. Alors aujourd'hui, nous les prévenons. Si quelqu'un veut entrer à Sabarimala, il devra nous passer sur le corps. Alors, ce à quoi répond cette jeune femme. Là, elle donne son prénom à la journaliste et dit qu'elle croit profondément qu'il est temps pour elle d'avoir ces changements. Et quand la journaliste lui demande si elle ira au temple, oui, répond-elle, absolument, si j'ai l'occasion, j'irai. Alors le clivage ne se résume pas aux hommes contre les femmes, mais aux progressistes contre les traditionalistes, y compris chez les indiennes. L'Inde, où la parole également des femmes compte de plus en plus, le mouvement MeToo est passé par là. Un ministre du gouvernement indien a donné sa démission hier. Il est accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes. Cet ancien journaliste devenu ministre aux Affaires étrangères est visé par de nombreux témoignages dans les réseaux sociaux des femmes qui auraient subi son comportement quand il occupait des postes à responsabilité dans les médias.
Et puis une femme, encore Amélie, c'est une femme qui parle fort, elle est au Nicaragua.
Ah oui, elle s'appelle Marlène Shaw, elle a 70 ans et ça ne l'empêche pas de donner encore de la voix. Donc. Alors ici, c'est lors d'une manifestation, cette sociologue, journaliste, surtout militante contre le président Ortega, a été arrêtée dimanche dernier. Et pour son interrogatoire, elle a choisi une forme de protestation qui a déstabilisé les autorités. Elle s'est maquillée les lèvres et ensuite passé son bâton de rouge à lèvres à ses co-détenus. Aux policiers qui lui demandaient à quelle organisation elle appartenait, elle a lancé « Je suis membre de l'association des femmes au bec rouge, aux lèvres rouges ». Alors qu'est-ce qu'il pouvait bien nous faire? C'est moquer Marlène Shaw, libérée dans la journée avec les autres féministes interpellées. Depuis, le slogan « Soy Picororo », le « J'ai le bec rouge et les lèvres rouges » est devenu un mot-clé viral sur les réseaux sociaux pour réclamer la libération des 500 opposants emprisonnés. Toute la question maintenant, c'est de savoir si le président Daniel Ortega, confronté à une vague de protestations sans précédent depuis le printemps, s'il succombera, comme les internautes, comme nous, peut-être aussi au charme et au rouge à lèvres de Marlène Shaw.
On verra ça, pas sûr. Merci beaucoup Amélie Perrier dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Iran que nous emmène l'escale reportage ce soir dans Un jour dans le monde. L'Iran que nous avons voulu visiter 6 mois après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. Des sanctions ont été rétablies en août. Elles se font déjà sentir dans de très larges pans de l'économie iranienne. Bonsoir Géraldine Allo.
Bonsoir.
Vous allez nous le faire vivre ce voyage en Iran. Retenons aussi que le 4 novembre, un deuxième train de sanctions va entrer en vigueur qui cible plus précisément les exportations de pétrole iranien. Et Géraldine, la question à laquelle vous avez essayé de répondre en plongeant dans ce pays, c'est bon, alors les Iraniens dans tout ça, comment vit-on dans un pays sous sanctions?
Alors je vais vous donner un exemple, Fabienne, pour résumer la situation. Premier jour à Téhéran, on a essayé de changer 60 euros en rial dans un bureau de change.
Hello, I have 60 euros and I would like rials, is it possible?
Eh bien non, ce n'est pas possible d'échanger des euros contre des rials car la monnaie iranienne est trop faible, trop volatile. Alors les bureaux de change ont stoppé leur activité. Ce jour-là, un euro valait 150 000 rials contre 50 000 rials il y a quelques mois. Et c'est bien là le problème, le drame même des Iraniens. Depuis le rétablissement des sanctions, leur monnaie s'effondre. Elle a perdu 80% de sa valeur en un an. L'inflation s'envole. Elle atteint officiellement 18%, en réalité beaucoup plus.
Donc, quelles conséquences au quotidien ?
Les Iraniens s'appauvrissent, ils ont du mal à joindre les deux bouts, à remplir leur réfrigérateur, à payer leur loyer. Même les classes moyennes souffrent. Bita a 19 ans, elle est étudiante et ses parents sont employés.
Nous sommes dans une grande crise financière en Iran et je sais que mes parents et moi aussi, on travaille tout le temps, mais l'argent qu'on gagne n'est pas vraiment assez pour vivre une vie qui est bien. Il faut toujours économiser, on ne peut pas vivre en luxe. C'est difficile, on travaille, on essaie de vivre. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, j'ai décidé d'étudier la littérature française. J'avais décidé de continuer mes études en France. À cette époque-là, bien sûr, mes parents voulaient bien m'envoyer en France pour avoir des études supérieures. Mais maintenant, je n'ai aucun espoir parce que je sais que la question de l'argent est vraiment difficile et dure pour ma famille.
Comment vous le vivez ? Le fait de devoir renoncer à votre rêve de partir étudier en France.
J'essaie de profiter du moment présent. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas dévier du chemin qui
vous est tracé.
Oui. Il ne faut pas contredire le gouvernement. Il ne faut pas avoir la liberté d'expression. Il y a toujours des problèmes comme ça.
Cette crise financière est due aux sanctions, mais pas seulement. De nombreux Iraniens que nous avons rencontrés dénoncent la corruption qui sévirait à toutes les strates du pouvoir. Mayar a 25 ans. Il travaille dans une entreprise qui importe des panneaux solaires de Chine. Son entreprise a mis la clé sous la porte, assommée par la chute inexorable du rial.
C'est à cause bien sûr des sanctions, mais aussi de la politique économique du gouvernement. Je crois personnellement qu'il y a un haut niveau de corruption au sein du gouvernement. Je ne sais pas si vous suivez les informations en Iran, mais tous les jours on entend parler de tel ou tel fils de notre dirigeant qui vit dans l'opulence à l'étranger, en totale opposition avec ce que nous vivons dans le pays. Nous, les gens de la classe moyenne, à cause de la crise monétaire, nous gagnons à peine de quoi payer notre loyer et acheter de quoi nous nourrir. Avant, on pouvait sortir dans des cafés, au théâtre, dans des concerts. Maintenant, c'est devenu un luxe.
L'autre problème, Géraldine, c'est qu'à cause des sanctions, les entreprises iraniennes se retrouvent coupées du monde.
Oui, les États-Unis ont établi une liste très longue de sanctions. Sont interdits le commerce de pièces automobiles, de pièces aéronautiques, de logiciels, de métaux précieux, d'acier, d'aluminium, de charbon et de spécificités locales comme le safran, les pistaches et les tapis. Mortessar Miri, justement, est fabricant de tapis dans le sud de Téhéran. Écoutez son désarroi.
Avant ces sanctions, nous exportions la majorité de nos tapis aux États-Unis. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rien y vendre, même pas un seul tapis, même en utilisant des intermédiaires d'une autre nationalité. Et comme les États-Unis contrôlent le système de transactions financières entre banques, on a du mal aussi à exporter dans d'autres pays.
Vous avez dû licencier des employés à cause de ces sanctions et de cette perte de chiffre d'affaires ?
Oui, avant nous avions 200 salariés dans tout le pays. Mais à partir du moment où Donald Trump a décidé de sortir de l'accord sur le nucléaire, avant même le début des sanctions, nous avons eu du mal à exporter nos tapis. Nous avons dû licencier des employés, petit à petit. Aujourd'hui, il nous reste une quarantaine de salariés.
Comment vous vivez, d'un point de vue personnel, ces sanctions ?
Je vais reprendre les mots de notre gouvernement. Je pense que ces sanctions sont du terrorisme économique. Cet accord sur le nucléaire, nous l'avons négocié avec la communauté internationale. Et nous avons respecté nos engagements. Je ne comprends pas l'attitude américaine. Je ne comprends pas le retour des sanctions. On ne mérite vraiment pas cela.
Les Iraniens comprennent d'autant moins qu'un deuxième volet de sanctions va entrer en vigueur le 4 novembre. Il ciblera, vous l'avez dit Fabienne, plus précisément les transactions bancaires vers l'Iran et depuis l'Iran, elles seront interdites. Ces nouvelles sanctions cibleront aussi le secteur clé des hydrocarbures. Washington veut empêcher Téhéran d'exporter son pétrole, ce qui serait catastrophique pour l'économie iranienne. Ces exportations de brut représentent 40% de ses recettes budgétaires. Bref, un énorme coup de massue. Encore un.
Vivre sous sanctions en Iran. Merci beaucoup Géraldine Allot, merci à Gilles Gallinaro qui a travaillé avec vous pour ce reportage qu'on peut entendre en très grande longueur. Ce sera dimanche sur France Inter dans Interception et c'est à 9h10 et vous revenez bien sûr quand vous voulez. Les Staple Singers sur France Inter. I'll take you there. J'adore les Staple Singers sur France Inter. I'll take you there.
Je suis venu vous parler de Rome.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
Comme tous les jeudis, l'Europe telle qu'elle nous fascine, nous agace, nous interroge, nous fait lever un sourcil ou parfois les deux. Je vous emmène à 1000 lieues du Brexit dont on parle beaucoup en ce moment. Bonsoir Johanna Hochstein.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Johanna, on peut tout faire avec de l'argent, ça on le sait, c'est pas une découverte. Et même acheter un passeport européen, ça vous le saviez peut-être. Mais saviez-vous que la vente de ces visas dorés, c'est comme ça qu'on les appelle, a pris une ampleur considérable ces dernières années et les demandeurs de ces visas sont très loin d'être tous fréquentables. Johanna, d'abord, quelle est l'ampleur de ce phénomène ?
Alors, une centaine de pays dans le monde vendent leur nationalité et ce nombre ne fait qu'augmenter, c'est ce que révèle l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. En Europe aussi, donc, cette pratique est très répandue. Plus de la moitié des États membres accordent ainsi des visas dorés. C'est le cas de Malte, de Chypre, de l'Espagne, du Portugal ou encore de l'Autriche. Alors, petite précision, Fabienne, cette pratique est tout à fait légale. Mmh. Elle consiste à octroyer la nationalité d'un pays ou un permis de résidence en échange d'investissements financiers importants sur le territoire national, une forme d'immigration choisie en fait, qui a été particulièrement encouragée après la crise financière pour renflouer les caisses des États. L'Espagne, par exemple, concède un titre de séjour provisoire qui peut devenir définitif au bout de 5 ans aux personnes qui achètent un bien immobilier de plus de 500 000 euros ou des bons du Trésor pour 2 millions d'euros. L'Autriche accorde, elle, la nationalité autrichienne aux personnes qui ont rendu des services exceptionnels au pays. terminologie assez vague, vous le concéderez, ou à celles qui investissent 10 millions d'euros sur le territoire. Ces 10 dernières années, au moins 6 000 passeports européens ont ainsi été vendus et quelques 100 000 titres de séjour, principalement à des riches chinois, à des russes et à des américains.
Mais alors quels sont les problèmes liés à cette pratique ?
Alors ils sont de deux types. D'abord, une certaine forme de concurrence intra-européenne s'est créée. Certains pays de l'Union européenne cassent en fait les prix pour attirer de riches investisseurs. En Lettonie, par exemple, on obtient un permis de séjour contre un achat immobilier de 70 000 euros. Relativement bon marché, la nationalité lettonne, n'est-ce pas Fabienne ? D'autant plus que ce permis de séjour permet ensuite de se déplacer sans visa dans tout l'espace Schengen. Alors le deuxième problème dénoncé encore cette semaine par l'ONG Transparency International, c'est que ces visas dorés ont permis à de l'argent sale de trouver refuge en Europe à cause du manque de contrôle, à cause du manque d'encadrement sur l'origine des fonds investis en échange du précieux sésame, précise l'ONG. Il y a quelques semaines, la police finlandaise enquêtait sur une agence immobilière qui serait au cœur d'une opération de blanchiment d'argent. Et à la tête de cette agence, on trouve un riche homme d'affaires russe, détenteur de la citoyenneté maltaise. Et le cas de Malte interpelle tout particulièrement. Souvenez-vous, Fabienne, c'était il y a tout juste un an, Daphne Caruana Galizia était sauvagement assassinée, cette journaliste maltaise enquêtée à l'époque sur ce commerce de passeports.
Et on s'en souvient d'autant que Radio France fait partie du consortium de journalistes qui continue à enquêter justement derrière elle pour pas que sa mort n'ait servi à rien. Que peut faire l'Europe pour remédier à ces dérives, Johanna ?
Alors l'Union européenne est tout à fait consciente du problème. La commissaire européenne à la justice, Vera Jourova, l'a dit publiquement. Elle redoute que ces visas dorés facilitent le blanchiment d'argent, la corruption, qu'ils présentent des risques pour la sécurité. Elle veut donc faire pression sur les capitales et leur demander d'être beaucoup plus attentives sur les critères d'octroi de leur nationalité, de mieux coopérer entre eux dans l'échange d'informations. Des recommandations sur le sujet devraient d'ailleurs être publiées avant la fin de cette année. Mais la Commission n'a absolument pas la compétence d'interdire ce genre de pratique. C'est du ressort des États membres. Bref, il faudra certainement du temps pour mieux encadrer ces visas dorés.
Johanna Hochstein, avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Et on reste en Europe avec le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Tout le monde en Europe a les yeux braqués forcément sur le budget de l'Italie. L'Italie qui commence à recevoir du courrier d'ailleurs en ce moment même. Donc un budget inacceptable pour l'Union européenne. Mais cette semaine, beaucoup plus discrètement, a été rendu public le budget du tout petit Portugal. Et le Portugal est en train de réussir économiquement en allant résolument contre l'orthodoxie de Bruxelles, et c'est votre monde à l'envers.
Ni vu, ni connu, le Portugal est en train de devenir le bon élève de la zone euro. Et dans son projet de budget 2019, dévoilé donc il y a 48 heures, le gouvernement portugais prévoit de ramener son déficit à 0,2% du produit intérieur brut. C'est un record depuis, tenez-vous bien, 40 ans. Le tout avec une prévision de croissance maintenue au-dessus de 2%, de quoi faire rêver la plupart des pays européens. Le phénomène est saisissant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un retournement de situation. Regardons ensemble d'où vient ce pays de 10 millions d'habitants. Flashback. De 2011 à 2016, le Portugal était au fond du trou. Souvenez-vous, en 2011, tout le monde annonçait que déjà qu'après la Grèce, c'était le prochain sur la liste. Le pays était au bord du défaut de paiement, soumis à une énorme cure d'austérité, à 3 années de récession, avec un chômage à 17%. En très peu de temps, tout s'est inversé. Le chômage est redescendu à 7%. Prévision pour l'an prochain, 6,3%. La croissance est stable. Les exportations sont reparties. L'automobile, l'immobilier, le textile, le tourisme portent l'économie. Les investissements étrangers sont en hausse. Le seul point noir reste l'endettement. Le troisième le plus élevé de la zone euro, c'est vrai. Mais la situation s'améliore là aussi. 130% du PIB il y a 4 ans. 118% prévu l'an prochain. Et du coup, les agences de notation ont sorti le Portugal de la catégorie pays spéculatif. Moody's l'a même classé vendredi dernier en perspective. Perspective stable, donc c'est un redressement spectaculaire et il y a assez peu de bonnes nouvelles économiques en Europe, donc il faut le souligner.
Mais alors quand même, que fait le gouvernement portugais pour arriver à ces résultats-là ?
C'est là où ça devient encore plus fascinant. Depuis 3 ans, le Portugal fait tout ce que Bruxelles déteste. Depuis 2015, le pays est dirigé par une coalition de gauche, gouvernement socialiste, soutenu par les communistes, les écologistes et on va dire le front de gauche local. Et non content de se dire de gauche, il mène une politique de gauche, ce qui est devenu quand même quasiment une anomalie en Europe. Vous voulez des exemples. Allez-y. En veux-tu, en voilà. Alors, dans son budget de l'an prochain, le Portugal prévoit d'augmenter de 3% les salaires de la fonction publique, de créer 5 nouveaux hôpitaux et de multiples centres de santé, d'améliorer la protection sociale pour les familles. En l'espace de 3 ans, il a déjà augmenté le salaire minimum, tous les ans, amélioré les petites retraites, arrêté les privatisations demandées par Bruxelles, réformé le code du travail pour limiter les CDD, et il envisage aussi d'accroître les impôts pour les hauts revenus. Donc c'est bien une politique de gauche, il n'y a pas d'autre mot. Relance par la demande et la consommation aux antipodes de l'austérité préconisée par Bruxelles ces dernières années. Et ça marche.
Et ça fait l'unanimité aussi,
ou pas ? Non, évidemment pas, ça serait trop simple. La droite portugaise ne conteste pas les bons résultats. Mais pour elle, ses succès sont le fruit des années de rigueur qui ont précédé cette rigueur que la droite avait imposée avant 2015. En résumé, les socialistes tireraient les marrons du feu. Tout en conservant, il faut quand même le souligner, une politique, on va dire plutôt de droite sur un aspect clé, la maîtrise des comptes publics. À l'autre bout de l'échiquier politique, les partenaires communistes du gouvernement, la CGT, estiment que ça ne va pas assez loin, qu'il faut augmenter davantage encore les petits salaires. Précisons que les prochaines élections sont prévues dans un an au Portugal. Mais le plus révélateur dans tout ça, c'est la discrétion de l'Europe. Bruxelles se garde bien de saluer trop ostensiblement les résultats portugais. Tout juste dit-on que cette recette n'est pas transposable ailleurs dans l'Union, parce que le coût du travail reste très bas au Portugal, parce que le pays aussi demeure une terre d'émigration. Cette discrétion bruxelloise, elle est surtout révélatrice d'une forme d'embarras. Le fait est que le petit poussé portugais réussit en faisant à peu près l'inverse de ce que demande la Commission européenne.
Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant le grand journal de France Inter. Restez avec nous et bonne soirée.